Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, chaudement. C'est agréable, hein? Ouais. J'ai décidé de vous parler ce soir et de ce thème, comprendre la souffrance de l'autre pour être son prochain. Vous allez voir, on va comprendre au fur et à mesure du propos là où je veux en venir. J'aimerais commencer le partage de ce soir avec une histoire qu'on trouve dans la Bible, que vous connaissez très certainement. Une histoire qui va être racontée par Jésus dans Luc au chapitre 10. Est-ce que quelqu'un veut lire, s'il vous plaît? Merci. Tout le monde connaît cette histoire? Comment elle s'appelle? Comment communément on l'appelle? L'histoire, la parabole du bon samaritain. C'est une histoire donc que Jésus raconte pour répondre à la question d'un spécialiste de la loi, comme on vient de le lire, qui s'interroge sur l'identité de son prochain. À cette époque, dans la tête des Juifs, le prochain, c'est le compatriote, c'est l'autre Juif, c'est celui qui appartient à la descendance d'Abraham. Pourtant, la parabole ici de Jésus, elle ne va pas dans ce sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il choisit un Samaritain dans cette histoire. Les Samaritains, ils étaient considérés par les Juifs comme une classe inférieure, comme une classe de gens impurs, parce que en réalité, c'était des Juifs qui s'étaient mêlés à d'autres peuples, à des non-Juifs, et ne respectaient pas toutes les lois qu'enseignait la Torah. Par conséquent, les Juifs n'avaient, en tout cas dans leur esprit, rien à faire avec eux. Et Jésus établit ici un fort contraste entre le sacrificateur et le Lévite, d'une part, et le Samaritain, d'autre part. Les deux premiers sont des hommes au service de Dieu. Ils connaissent la loi, notamment l'interdit sur le fait de toucher un cadavre. Et en réalité, c'est pour ça qu'on voit qu'ils se détournent de cet homme à demi-mort sur le chemin. Selon Nombre, au chapitre 19 et au verset 11 à 13, celui qui touche un mort, un corps humain, décédé sera impur pendant 7 jours. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les règles de l'époque. Et la règle va plus loin pour les prêtres, pour ceux qui servent Dieu, puisque Lévitique, au chapitre 21 et au verset 11, nous dit « Ils n'iront vers aucun mort, il ne se rendra point impur ni pour son père ni pour sa mère. » Donc, on voit que là où pour la communauté, on a déjà des règles strictes avec 7 jours d'impureté, c'est une autre paire de manches pour les prêtres, puisqu'ils n'ont même pas le droit de toucher en réalité au cadavre de leur mère ou au cadavre de leur père. Donc, il y a quand même quelque chose de relativement sévère. Il y avait un interdit absolu de toucher un cadavre, et ça interroge, parce que ici, l'homme dont Jésus parle n'est pas encore mort. Il n'est que mourant. Mais dans cet idéal de pureté, si vous voulez, le sacrificateur comme le Lévite passe leur chemin, parce que ils savent pas si c'est un cadavre ou si c'est quelqu'un qui est en train de décéder, et sous couvert de rester pur, ils prennent pas de risques et ne s'y penchent pas. Ils passent leur chemin sans s'interroger sur le fait de pouvoir sauver cette personne. À l'inverse, le Samaritain, considéré donc comme un être impur par essence, puisqu'il est le fruit d'un mélange avec d'autres peuples, lui vient au secours de celui qu'il trouve sur son chemin. Et Jésus établit ici un fort contraste entre ceux qui connaissent la loi et ceux qui la suivent réellement dans leur mode de vie et leur conduite. Le prêtre et le Lévite de la parabole sont légalement irréprochables. Ils ont respecté la loi à la lettre, voire même ils sont allés au-delà de la lettre de la loi en se préservant de toucher quelqu'un qui était sur le point de mourir. Alors que le Samaritain, lui, qui n'est visiblement pas tenu par cette loi, qui ne se sent pas tenu par cette loi, a été saisi de compassion par la scène et Jésus l'érige en modèle de conduite pour chacun d'entre nous. Cette parabole, elle nous invite évidemment à nous tourner vers les autres, à faire en sorte d'être le prochain de ceux qui nous entourent. Le prochain, c'est celui qui fait preuve de compassion, c'est celui qui se penche sur le blessé au bord du chemin, c'est celui qui ouvre ses entrailles, comme j'ai pu l'apporter il y a 2 semaines, celui qui ouvre ses entrailles, celui qui fait preuve de compassion à l'égard de ceux qui en ont besoin, c'est celui qui a l'écoute, qui panse les plaies, qui se soucie de celui qui se trouve sur sa route et qui est démuni. Ceci étant dit, j'aimerais vous emmener dans une autre lecture, une nouvelle lecture de cette parabole, en vous proposant pour une fois de ne pas vous référer ni au bon samaritain, ni au prêtre, ni au lévite, mais en vous concentrant sur l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Si nous sommes appelés à être le prochain de ceux qui nous entourent, donc à être ce bon samaritain, et notamment à ceux qui se trouvent blessés, au sol, à demi-mourants, le long du chemin, il nous faut comprendre la situation par laquelle ils passent. Il nous faut nous mettre à leur place. La compassion, qui est au fondement de notre relation aux autres, c'est le fait de souffrir avec. Mais si on veut souffrir avec, il faut donc comprendre les souffrances que les autres vivent. On est d'accord avec ça ? Tout le monde me suit. Donc, il va falloir qu'on se mette à la place de cet homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho pour comprendre ce que c'est de souffrir avec lui. L'idée, c'est donc de comprendre par quel chemin il passe, quelle est sa condition, quelle est sa souffrance, pour être en mesure d'être le bon samaritain de l'histoire. C'est d'autant plus important qu'il peut nous arriver, en réalité, d'être cet homme couché au bord du chemin. Comme le dira Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. » S'il vous arrive d'être comme cet homme au bord du chemin, abandonné tous et dans un état misérable, en attente d'une main tendue, alors il y a lieu de tendre la main quand on rencontre de pareilles personnes sur notre route. Il est donc utile parfois de se rappeler la main qu'on nous a tendue, soit par un frère, soit par une sœur, soit par Dieu. Lorsque nous étions au fond du trou, une main a été tendue, il nous faut nous en rappeler pour pouvoir agir de même lorsque nous sommes davantage affermis. Concernant cet homme battu à mort, la Bible ne nous dit rien de son origine, de ses croyances, de sa culture. Tout ce que l'on sait de lui, c'est son point de départ et sa destination. Il partait de Jérusalem et descendait vers Jéricho. Ce que je vous propose, c'est d'étudier rapidement son point de départ et son point d'arrivée, qui pourront peut-être nous éclairer sur ce qu'est en train de vivre cet homme. Jérusalem d'abord. Le mot qui est utilisé pour Jérusalem, c'est Hierosolouma, en grec, qui signifie fondement de la paix. Jérusalem a une place particulière dans la Bible. C'est le roi David qui va la conquérir dans 2 Samuel 5, il en fera sa cité, la capitale du royaume. Salomon, son fils, va y construire le temple de Dieu dans 2 Chroniques. Et à partir de ce moment-là, la cité de Jérusalem, même un petit peu avant en réalité, va rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Ce sera la terre d'élection de Dieu, celle qu'il choisira comme le lieu de sa présence. Dans 1 Roi, au chapitre 11, au verset 36, Dieu affirme que Jérusalem est la ville qu'il s'est choisie pour y mettre son nom. Même chose dans 1 Roi 8, « Là sera mon nom », dit Dieu. On retrouve la même idée dans 2 Chroniques 7, quand Dieu parle du temple que Salomon vient de faire construire dans l'enceinte de la ville. « Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » C'est aussi ce que dira d'ailleurs David dans Psaume 132, avant même que le temple ne soit construit. Au verset 13 à 14, il nous est dit « Oui, l'Éternel a choisi Sion. » Sion, c'est l'autre nom de Jérusalem, un autre nom pour Jérusalem. « Il l'a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos à toujours, dit l'Éternel, j'y habiterai, car je l'ai désiré. » Et puis, cette ville, elle a aussi une dimension eschatologique, donc qui se rapporte à la fin du monde. Vous avez peut-être entendu parler de la Jérusalem céleste, de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut. On a pas mal de passages bibliques qui prennent Jérusalem comme référence pour matérialiser, si vous voulez, la ville où Dieu demeurera éternellement avec son peuple à la fin des temps. Donc on voit que Jérusalem a quand même une place particulière. Elle est symbole de la présence de Dieu, ce qui lui impose une sainteté particulière. D'ailleurs, on verra qu'Israël ne sera pas complètement fidèle à cette sainteté et que la cité finira par être détruite, prise, détruite, et puis ensuite le peuple sera déporté à l'exil, en exil. Ça, c'est pour Jérusalem. Et puis, on a Jéricho. Je vous ai mis une petite image de Jéricho. Jéricho, c'est l'une des plus vieilles villes, du monde. Il y a des archéologues qui ont fait des fouilles et qui se sont rendus compte qu'il y avait des ruines qui dataient de plus de 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est sur vraiment le berceau de l'humanité, si vous voulez, la ville, une des villes les plus anciennes de l'humanité. Et cette ville, elle a de multiples noms. Elle est Jéricho, la ville des parfums. Étymologiquement, Jéricho signifie la ville des parfums. Elle est présentée aussi comme la ville de la lune, sûrement parce que la ville s'était développée autour d'une divinité qui se rapportait à cet astre, à la Lune. Et puis, elle est aussi connue comme la ville des palmiers. Alors, pourquoi une ville des palmiers? Parce qu'en réalité, Jéricho se présente comme une oasis. Une oasis? Un oasis? Une oasis? Une oasis au milieu du désert. Le sol y est fertile grâce à une source qui alimentait la ville, ce qui favorisait une végétation luxuriante et donc de nombreux palmiers. Et l'endroit sur lequel se trouve la ville est tellement accueillant qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc là je vous parle quand même, on est bien avancé dans l'histoire, IIe siècle avant Jésus-Christ, elle deviendra la résidence d'hiver des rois asmonéens, puis ensuite elle servira de lieu de repos pour les Romains. Jéricho fera partie des territoires qui seront donnés par l'empereur Marc-Antoine à Cléopâtre, et Cléopâtre finira même par, donc reine d'Égypte, finira même par louer à Hérode le Grand cette ville et les territoires alentours, qui finira par l'agrandir et en faire de somptueux palais. Donc on voit quand même que Jéricho, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville attrayante. Pourtant, il y a aussi l'envers du décor. Il ne faut pas oublier qu'à la suite de la prise de la ville par le peuple hébreu, Josué, on est à la fin de l'Exode, Josué passe le Jourdain avec le peuple hébreu et ils prennent la ville de Jéricho. Et à la suite de cette prise, Josué va maudire la ville et celui qui cherchera à la reconstruire. Donc voilà l'Exode, les Juifs partent donc d'Égypte, ils passent leurs 40 ans dans le désert, ils font tout un petit circuit. Et puis, ils finissent par passer par le Jourdain à Gué, ici, et ça sera la première étape, si vous voulez, la ville d'entrée dans la terre promise qu'ils prendront. Pourquoi cette malédiction? Donc, comme je l'ai dit, c'est la première ville de la Terre Sainte qui tombe aux mains des Israélites. C'était une forteresse qui empêchait le libre accès à la terre promise. Une fois qu'elle a été détruite, déchue de sa position importante qu'elle occupait à proximité du Jourdain, elle devait rester ouverte pour tous. Ces fortifications qui venaient de s'écrouler ne devaient pas être relevées. Et il y a là une image spirituelle extrêmement forte. Elle est la forteresse qui empêchait l'accès à la terre promise par Dieu. Par sa destruction, Dieu ouvre un accès à son peuple. Et la muraille de Jéricho ne doit pas être construite pour continuer à laisser passer les gens en terre promise. Finalement, Jéricho sera rebâti quelques temps après, dans 2 Samuel 10, et la malédiction de Josué se réalisera, puisqu'elle frappera Yael de Bethel, qui sera l'instigateur de cette reconstruction. Et puis, plus loin, dans 2 Rois 2, on se rend compte que la ville de Jéricho, elle est pas aussi idyllique qu'il n'y paraît. Il reste des traces profondes de son passé. Pour une petite remise en contexte, on est à une période où Élie, le prophète, vient d'être emmené sur un char de feu par Dieu et laisse Élisée comme son successeur. Et puis là, Élisée rentre dans une conversation avec les gens de Jéricho. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement cette phrase-là, la première phrase. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. » Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et puis, on voit un petit peu plus loin que donc Élisée va réaliser un miracle puisqu'il va mettre du sel dans l'eau, ça va assainir les eaux et il n'y aura plus de problème de stérilité et de mort générée par ces eaux parce qu'elles ont été assainies. Les eaux amères de la ville de Jéricho rendaient un pays fertile, luxuriant, en terre stérile. En terre qui sème la mort. Et il a fallu un miracle de Dieu pour que les eaux soient assainies. Donc on voit quand même qu'il y a une comparaison ici entre deux villes qui est assez frappant. Si on s'amuse à comparer donc Jéricho à Jérusalem, il y a un contraste saisissant. La première, donc Jérusalem, est une ville sainte, une ville d'élection de Dieu, la ville où est dressé le temple de Dieu où il réside. Jéricho, c'est une ville fertile, luxuriante en apparence, mais en réalité, cette ville aux mille parfums, elle est accompagnée de stérilité, de mort, du fait de ces eaux qui sont polluées, qui manquent d'assainissement, et il faudra une œuvre de Dieu, mais entre guillemets, sans l'œuvre de Dieu, cette ville voue les gens à la mort. C'est une ville qui fait obstacle à l'accomplissement de la promesse divine et qui doit être détruite pour que le projet de Dieu pour son peuple puisse s'accomplir. Et puis, j'ai voulu comparer sur un dernier élément ces deux villes, c'est leur altitude. Alors vous allez voir, Jéricho est connu, si ça veut bien marcher, Jéricho est connu comme la ville la plus basse du monde. C'est-à-dire que vous avez en face de vous la ville la plus vieille du monde, mais aussi la ville la plus basse du monde. Elle se trouve à 240 mètres en dessous du niveau de la mer. À l'inverse, Jérusalem, qui ne se situe qu'à 30 km de Jéricho, se situe à 800 mètres au-dessus de la mer. Il y a donc un vrai contraste, si vous voulez, d'altitude entre Jéricho, qui se trouve dans les tréfonds de la terre, et Jérusalem, qui se trouve sur un lieu élevé. Et ça explique pourquoi Jésus nous parle d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Il est vraiment en train de descendre. C'est pas simplement il parcourt son petit chemin. Il y a 1040 mètres de dénivelé cumulé négatif. Ça fait quand même une jolie pente. Sur 30 km, c'est une jolie pente. Pourquoi est-ce que je distingue de cette façon Jérusalem et Jéricho ? Parce que bon, c'est bien le cours d'histoire, mais je pense qu'il y a derrière cette descente de Jérusalem à Jéricho une portée spirituelle qu'il est intéressant de saisir. Jérusalem, la ville sainte, l'endroit élevé sous le regard de Dieu, ville où il séjourne, et Jéricho, ville d'apparence, qui est en réalité symbole d'enfermement, de stérilité et de mort. La première, à mon sens, représente notre vie avec Dieu, une existence dans sa présence, une vie qui lui est consacrée. La seconde représente une vie sans lui, une existence en apparence agréable qui ne mène qu'à la stérilité de l'âme et à la mort. Les eaux y sont amères, tout comme le cœur de celui qui vit sans Dieu est corrompu par le péché et produit une vie stérile. Quand nous nous sommes convertis, nous sommes, en un sens, spirituellement passés de la ville de Jéricho à la ville de Jérusalem. Nous sommes passés de l'esclavage du péché à la liberté en Christ, des parfums du monde aux parfums de Christ, d'une existence stérile qui conduit à la mort à une vie riche en abondance. Tout comme le peuple hébreu, guidé par Josué et passé par les eaux du Jourdain, a fait écrouler les murailles de Jéricho, qui faisaient barrage à leur entrée dans la terre promise, nous aussi, quand nous choisissons Jésus, nous passons par les eaux de la conversion, et les chaînes du péché qui nous fermaient l'accès au Père tombent pour que nous puissions rentrer en pays promis dans sa sainte présence. Et je suis content parce que j'ai trouvé un passage qui étaye un petit peu mon argumentation, ça va dans le sens de ce que nous dira Paul dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux au chapitre 12 nous dit « Vous vous êtes approchés du mont Sion, du mont de Jérusalem, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fête de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. » Par ce choix que nous faisons de suivre Jésus, nous nous approchons spirituellement de Jérusalem en tant que cité par excellence de Dieu et nous abandonnons la voie de Jéricho. Et ce chemin, du coup, sur lequel se trouve cet homme blessé dans l'histoire du bon samaritain, il ne nous est donc pas totalement inconnu, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire preuve à la fois d'humilité et de compassion à l'égard de cet homme qui se trouve au bord du chemin, qu'on peut retrouver au détour, en réalité, de notre chemin quotidien. Nous aussi, nous sommes passés par là, nous avons été relevés par Jésus pour nous diriger non pas vers Jéricho, mais vers Jérusalem. Et je pense qu'il est utile de garder ça à l'esprit pour ne pas tomber dans la critique de l'autre, pour ne pas tomber dans le jugement. Comme le dira Paul dans Éphésiens 2, nous n'avons aucun mérite à cela, mais c'est par grâce que nous avons été relevés et restaurés. Alors, une chose interpelle quand on y réfléchit quand même, bien qu'il n'y ait pas d'informations concernant cet homme, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Il n'était pas en train de faire le chemin inverse, de passer de Jéricho et monter vers Jérusalem. Il passait donc du symbole de la présence de Dieu, si vous voulez, au symbole du monde. Alors comment on se retrouve à cheminer dans ce sens plutôt que dans l'autre ? Comment se fait-il que quelqu'un qui a pu s'extirper de sa condition d'habitant de Jéricho se retrouve à y retourner, à retourner dans une ville qui sème la mort ? Sans doute, c'est parce que le chemin est long et ardu en réalité et qui n'est pas linéaire quand on est chrétien et que parfois on vit des temps où inévitablement les circonstances font qu'on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on a tendance à se rapprocher du monde. J'ai cherché différents exemples bibliques pour essayer d'argumenter un petit peu ça. Et un premier exemple m'est venu, c'est l'histoire de Jonas. Les quelques exemples que je vais vous donner, c'est des hommes et des femmes. Non, en plus, c'est que des hommes. Ce sont des hommes qui étaient proches de Dieu, qui avaient une relation avec Dieu, et pour autant qui se sont détournés de sa face. Jonas, c'est l'histoire d'un homme qui s'est irrité quand les projets de Dieu ne se sont pas accordés avec ses envies. Jonas, en réalité, il était appelé par Dieu à aller à se rendre dans la ville de Ninive pour les appeler à la repentance, pour les mettre d'abord en garde et puis les appeler à leur repentance. Et lui, sachant que Dieu était bon et qu'il allait finir par leur pardonner s'il se repentait, il a préféré se détourner des projets de Dieu et fuir. On le voit dans ce passage de Jonas 4 que je ne vais pas lire, mais on peut trouver plusieurs raisons, si vous voulez, pour expliquer ce désir de Jonas à voir Ninive détruite. Déjà, Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Et en tant que capitale de la Syrie, c'est une ennemie d'Israël. Et donc, il y a cette idée quand même que si Ninive est détruite, c'est quand même une petite victoire pour Israël. Et puis, Jonas voulait aussi probablement voir la chute de Ninive pour satisfaire son propre sens de la justice. Il en allait de la justice de Dieu dans sa perspective, dans son sens. Il en allait de la justice de Dieu que Ninive soit détruite. Nos envies ne sont pas toujours les projets de Dieu. Et ça peut nous conduire à nous détourner de sa face. En cela, nous quittons le chemin de Jérusalem et nous descendons gentiment vers Jéricho. Est-ce qu'on est toujours à l'écoute des projets de Dieu? Est-ce qu'on est toujours à son service? Est-ce qu'on se réjouit toujours de le voir à l'œuvre? C'est des questions auxquelles on a envie de répondre tout de suite oui, et pourtant il y a quand même matière à réfléchir. Une autre histoire, c'est l'histoire de David. David, c'est l'histoire d'une incompréhension face aux réponses de Dieu, qui mène à l'irritation et puis un petit peu à la peur aussi. Et j'en veux pour preuve cette histoire dans 2 Samuel 6, où David va se faire pour objectif que de retrouver l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est un objet de culte extrêmement important dans le culte juif, et elle a été à un moment donné volée par des ennemis d'Israël, et David se fait un point d'honneur à la retrouver. Il finit par la retrouver, il l'arrache des mains des voleurs, et puis il la fait apporter à sa maison, et sur le chemin, un de ses serviteurs, un de ses hommes, Uza, oubliant toute règle concernant l'arche, puisqu'il y avait cette règle de pureté, de sainteté de l'arche qui ne devait pas être touchée, pose la main dessus pour éviter qu'elle tombe et meurt sur le coup. Et ça, David va très mal le vivre. Il va très mal le vivre il ne va pas vouloir de l'arche de l'Alliance chez lui. Il va dire comment est-ce que c'est possible que l'arche de l'Alliance passe le pas de ma maison et il va l'envoyer ailleurs. Il va la stocker ailleurs, il veut plus, si vous voulez, de cette présence de Dieu qui lui rappelle finalement cette justice qu'il ne comprend pas. Bon, au bout de 3 mois, il voit que la maison dans laquelle il met l'Arche de l'Alliance est plus que bénie, et donc là, il fait rapatrier quand même, parce que la bénédiction, ce serait dommage qu'elle soit ailleurs que chez lui. Mais on peut y voir ici, si vous voulez, la même logique que quand nous, on est déçus des réponses de Dieu. Quand on est dans l'incompréhension dans certaines circonstances et que ça nous conduit à nous éloigner de lui, à mettre de la distance parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Nous portons davantage notre regard vers Jéricho que vers Jérusalem, également dans cette situation. Et puis, ça sera mon dernier exemple, c'est l'histoire de Pierre. Pierre ou la peur de manifester sa fidélité à Jésus par la peur des circonstances. L'histoire, c'est très simple, c'est Pierre qui, après avoir suivi Jésus tout au long de son ministère, se sent seul, abandonné après que Jésus fut arrêté. Et Pierre le suit de loin, si vous vous souvenez, il les conduit à se réchauffer près d'un feu parmi des serviteurs qui visiblement voulaient la mort de Jésus. Et il va le renier 3 fois. 3 fois en accord avec ce que Jésus lui avait annoncé, lui avait prophétisé. C'est ce qu'on voit dans Marc au chapitre 14. Ainsi, Pierre, l'un des plus proches disciples de Jésus, celui qui avait vu des miracles, celui qui en avait réalisé avec Jésus, se détourna à un court instant de Jésus par peur du jugement des autres, par peur des conséquences de sa fidélité à Jésus, mais aussi sans doute par déception. Déception d'avoir suivi autant de temps un homme qui se présentait comme le libérateur d'Israël et qui allait être mis à mort le lendemain sans avoir accompli ce qu'il était venu annoncer. En tout cas, on peut y voir quand même une forme de déception quand il dit « je ne connais pas cet homme ». Est-ce qu'il n'y a pas une part de réalité dans ce que nous dit Pierre ici, qu'il ne connaît plus l'homme qui s'était annoncé le sauveur d'Israël et qui allait mourir comme ça sur cette croix? Est-ce que nous aussi, on n'est pas amené parfois à fermer notre bouche par peur? Peur de témoigner, peur des conséquences de manifester notre fidélité à Dieu. Et puis, est-ce que parfois, il ne nous arrive pas aussi d'être déçus parce que la promesse de Dieu ne paraît pas s'accomplir? Parce qu'elle tarde à s'accomplir, elle ne répond pas à nos exigences de temps. Par ces trois exemples, je me dis qu'il y a une pensée qui émerge. Il est possible d'entretenir une relation avec Dieu et pourtant, avec les circonstances de la vie, de nous détourner de sa face. Et il y a cette idée de vous êtes en train de cheminer vers Jérusalem et puis à un moment donné, le chemin fait que vous vous détournez et vous repartez un petit peu quand même vers Jéricho. Alors, ce qui est beau avec ces trois exemples, c'est que chacun de ces personnages a été conduit à se repentir et reparti de l'avant avec Dieu. Le chemin de Jéricho à Jérusalem n'est pas un chemin facile. Paul dit dans Philippiens au chapitre 3 qu'il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, à la fin de sa vie, il nous dira, et en tout cas il le dira dans sa deuxième lettre à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». Nous sommes donc face à une course, à une marche d'endurance qui dure toute notre vie chrétienne et comme toute épreuve sportive, il y a des efforts à fournir. C'est à la même conclusion que parvient Paul quand il dit dans 1 Corinthiens 9 « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » Pourquoi le chemin est si difficile entre Jéricho et Jérusalem? Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, le dénivelé est de 1040 mètres, ça fait une sacrée montée. Il y a 30 km à parcourir. J'ai regardé à peu près le temps estimé entre les deux villes pour un bon marcheur, quelqu'un de sportif. On parle de 8 heures de marche. Si vous regardez un petit peu sur Internet, en gros, c'est un gros trek. C'est un trek pour des sportifs confirmés. Et là, je me suis dit, oui, mais alors, si ma montée, elle est comme ça et que je vais de Jéricho à Jérusalem et que c'est extrêmement dur, c'est plus simple en réalité de descendre. C'est-à-dire que je pars de Jérusalem et au bout de 2 heures, je suis arrivé en bas. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de descendre de façon abrupte, une pente très abrupte? C'est presque plus fatigant, si ce n'est plus. Ça demande plus d'énergie, plus de concentration que le fait de monter. C'est-à-dire que, alors que en apparence, une descente, on a envie de la dévaler. Les articulations sont plus mises à contribution et il y a plus de risques de glissade et de chute. Et je me dis que c'est la même chose avec la marche chrétienne. La marche chrétienne qui nous conduit à Jérusalem demande évidemment de la motivation, de l'énergie, du muscle. Mais descendre vers Jéricho, c'est finalement plus coûteux parce qu'il peut en résulter des douleurs articulaires qui n'apparaissent que sur le long terme. Et on prend le risque de rapidement finir au sol, d'avoir besoin d'aide pour être relevé. On en revient, si vous voulez, un petit peu à cette histoire de la parabole du bon samaritain avec cet homme qui finit au sol à demi-mort. Alors lui, ce n'est pas pour avoir glissé, il s'est fait taper dessus. Mais si vous voulez, on est dans la même logique. Alors, soyons conscients d'où nous venons et ce par quoi il nous arrive de passer pour que notre comportement à l'autre en soit impacté, pour que nous adoptions les bonnes attitudes. Je l'ai dit il y a 2 semaines, l'éthique chrétienne, c'est une éthique de la reconnaissance. J'aime parce que j'ai été aimé. Je donne parce qu'on m'a donné. Je pardonne parce qu'on m'a pardonné. Jésus nous a tendu la main quand nous étions sur ce chemin, abandonnés de tous à nos souffrances. Alors, manifestons sa gloire en nous agenouillant au niveau de ceux que nous rencontrons sur notre route. Pour tout vous dire, je suis passé récemment par une expérience où il m'a paru que dans notre vie chrétienne, il y a des situations qui nous conduisent à nous fermer à Dieu. Des déceptions, des blessures, des incompréhensions qui nous amènent à nous replier sur nous-mêmes dans une logique de protection, quitte à prendre un petit peu de distance en réalité avec Dieu. Que ça soit volontaire ou non, conscient, de façon consciente ou pas, on érige des remparts pour se séparer de ce que l'on ne comprend pas, et notamment lorsqu'on a été en réalité amené à souffrir. Il y a quelques mois, je passais donc par là, mais sans vraiment le réaliser. Et puis, dans un moment de prière, m'est venue cette référence, Josué 6, 14. Alors, je suis allé lire Josué 6, 14. Puis bon, j'ai lu tout Josué 6, parce que j'avais besoin de la remise en contexte pour voir de quoi il était question. Josué 6, c'est en fait ce que j'ai apporté tout à l'heure, c'est cette prise de la ville de Jéricho. Est-ce que vous vous souvenez comment cette ville de Jéricho est prise ? De la prière, ouais, de la louange. Ils ont tourné autour de la ville, vous vous souvenez pendant combien de jours ? 7 jours. Combien de fois ils ont tourné ? 13 fois. Et c'est à quel moment que les murailles se sont écroulées ? À la 13e, à quel son ? Quand les trompettes ont sonné, les murs se sont écroulés. Et je vous avoue que j'étais quand même un petit peu sceptique face à ce passage, et je ne savais pas ce que vraiment le Seigneur voulait me dire. Et première réaction, ça a été de dire, bah, « Seigneur, montre-moi, enfin, s'il y a des murailles, entre guillemets, dis-moi quelles sont leurs natures, il faut les détruire, pierre par pierre. » Puis le passage m'est revenu. Est-ce que Josué a reçu des ordres sur le matériau de ces murailles et sur la façon de les démanteler ? Non, on lui a tout simplement dit de tourner autour des murailles pendant 7 jours, de louer, de prier, de manifester la gloire de Dieu, et au son des trompettes, la muraille s'écroulera. Eh bien écoutez, fort de cette conviction, j'ai prié et j'ai loué pendant 7 jours. Et le 7e jour, j'ai eu la conviction que ce qui devait s'effondrer avait été mis à terre. Et je n'ai compris que plus tard, en réalité, quelle était la nature de cette muraille. Et je me dis que parfois, notre vie tient plus de la ville de Jéricho, une forteresse dans laquelle on s'enferme, que de la ville de Jérusalem. Josué 6 reflète... Ah oui, donc j'ai... Non, c'est bon en fait. C'est juste que je ne l'ai pas noté, pardon. Josué 6, verset 1... nous dit, donc on est au tout début, si vous voulez, du siège de Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Comment voulez-vous être ouvert à Dieu et aux autres dans ces circonstances, quand tout est barricadé, quand personne n'entre et quand personne ne sort ? Alors, si notre modèle ne doit pas être Jéricho, ça veut dire que ça doit être Jérusalem. Mais alors, qu'est-ce que la ville de Jérusalem ? À quoi doit ressembler notre vie de chrétien ? Eh bien, pour répondre à cette question, décidément, j'ai un problème dans mes diapos. Pour répondre à cette question, je vous emmène dans Néhémie 3, qui nous raconte de quelle façon la muraille de Jérusalem a été reconstruite après que la ville a été assiégée puis détruite par Nabucodonosor II et les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Je vous ai mis une petite frise chronologique. L'histoire de la population du royaume de Juda, c'est qu'elle a été déportée en 3 fois, selon le livre de Jérémie, je vous y renvoie. Et à un moment donné, donc, il y a eu une déportation, ils sont en exil à Babylone, et puis Babylone est finalement prise par les Perses. Comme quoi, un empire peut être pris par un autre. Et en 539 avant Jésus-Christ, Babylone est prise par les Perses, et l'empereur Cyrus II finit par libérer les Juifs en 538 en leur donnant la permission de retourner dans leur pays d'origine et d'aller reconstruire le temple de Jérusalem. Et donc là, pendant 22 ans, le temple est reconstruit avec Zorobabel. Et puis en 445 avant Jésus-Christ, au temps de l'empereur perse Artaxerces Ier, Néhémie obtient l'autorisation de reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc le temple a été reconstruit, mais pas encore les murailles. Donc si vous voulez, il y a un temple qui est au milieu de ruines. Et voilà ce que nous dit Néhémie au chapitre 1, au verset 3. « Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. » Néhémie 3 nous parle donc de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Les exilés sont de retour, ils ont reconstruit le temple, mais ils se trouvent sans protection face à l'ennemi. Et d'après le rapport que Néhémie a reçu, le reste de Jérusalem était couvert de honte face aux ruines de leurs murailles. Une ville aux murs brisés, ça révèle un peuple vaincu. Ça révèle un peuple qui est humilié, qui se trouve dans des conditions dangereuses parce qu'elle est susceptible d'être attaquée en permanence. Et on le voit dans Néhémie chapitre 2, verset 17, quand Néhémie dit aux dirigeants juifs de l'époque « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Si vous voulez, il y a vraiment cette dynamique de rééquilibrer les choses, de rétablir l'ensemble du peuple au travers de la reconstruction de cette muraille et de retrouver un honneur perdu. Bâtir la muraille se révèle donc être une nécessité, à la fois pour se sécuriser en tant que population, mais aussi pour, si vous voulez, non pas s'isoler du monde extérieur, pas s'isoler de l'environnement, mais comme un symbole d'unité de la population. Et pourquoi je dis que ce n'est pas pour s'isoler ? C'est parce que la Bible nous fait part de 10 portes. Dans Néhémie 3, on en parle de 10 portes, en réalité il y en a 12, mais je m'en tiendrai à Néhémie 3. On nous parle de 10 portes qui permettent d'entrer et de sortir de la ville. Et c'est sur ces 10 portes que je vous propose courtement de réfléchir. Voilà les 10 portes dont il nous est parlé. Vous avez le plan de la ville. On va les prendre dans l'ordre en commençant du coup par la porte des brebis et on va tourner comme ça. Il apparaît que chaque porte a en réalité une signification spirituelle. La porte des brebis d'abord. C'est la première porte qui est mentionnée et c'est celle qui attire notre regard vers Jésus. Jean chapitre 10, verset 9, Jésus le dira, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte des brebis. » C'est Jésus qui nous le dit. Et comme je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est la porte par laquelle les brebis qui étaient en train de paître du côté de Jéricho étaient ramenées au temple pour être sacrifiées. Elles quittaient le pâturage. On les emmenait d'abord se faire baigner dans les piscines de Bethesda pour être lavées, pour être purifiées. Elles passaient par la porte des brebis et ensuite, elles étaient sacrifiées pour Dieu. Jésus a accompli tout ça. Jésus est venu en tant que sacrifice parfait. Il nous a ouvert la voie par son corps, nous donnant un libre accès au Père. Cette porte, elle nous rappelle le sacrifice de Jésus sur la croix. Et chose intéressante, c'est la seule porte dans Néhémie 3 qui n'est pas concernée par la pose d'un verrou. Cette porte doit demeurer toujours ouverte. C'est une invitation constante à diriger notre regard vers Jésus qui nous offre un accès que l'on ne saurait fermer. C'est d'ailleurs ce que confirmera Jésus dans Jean chapitre 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Cette porte, elle est ouverte et quand on entre par cette porte, on n'est pas jeté dehors, on n'est pas sommé d'en sortir. Donc ça, c'est la première porte, la porte des brebis. Vous avez aussi la porte des poissons. La porte des poissons, c'est la porte de la proclamation de l'Évangile. C'est la porte du témoignage. Dans Marc au chapitre 1 et dans Matthieu au chapitre 4, Jésus qui va appeler des hommes à son service et qui finira par appeler ses disciples, leur dit « Venez après moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes ». Cette porte, elle nous invite à être des témoins de l'œuvre que Christ réalise en nous. Et nous devons être constamment ouverts aux autres. C'est vraiment une porte qui nous invite à être constamment ouverts aux autres pour leur parler du message de l'Évangile, pour leur témoigner de l'œuvre que Jésus a réalisée dans notre vie. Ensuite, on a la vieille porte ou la porte du vieux mur. C'est la porte de la vérité. Elle nous rappelle une vérité ancienne, une vérité qui ne change pas, une vérité qui est éternelle. Et on peut le voir avec deux passages dans Jérémie au chapitre 6, au verset 16. Vous avez Dieu qui prévient son peuple qu'il est en train de se détourner de lui. Et il nous est dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » Il y a une invitation à marcher sur des anciens sentiers. C'est quoi les anciens sentiers ? C'est les sentiers de la vérité, c'est les sentiers que Jésus est venu proclamer, révéler il y a plus de 2000 ans et qui sont toujours d'actualité. On retrouve exactement le même avertissement dans Jérémie 18. « Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. » Ne quittons pas les anciens sentiers. Peu importe notre vie spirituelle, peu importe depuis combien de temps nous avons choisi de suivre Christ, ne quittons pas les anciens sentiers, les sentiers de la vérité. Le message du salut reste le même pour chacun, peu importe les époques. Et puis, on a la porte de la vallée. Est-ce que ça vous parle, la vallée ? C'est quoi la vallée, à votre avis, dans la Bible ? Une dépression ? Oui, une dépression géologique, ou une dépression tout court d'ailleurs. Comment? La vallée de l'ombre de la mort. La vallée, c'est le symbole évidemment de l'épreuve, de la souffrance, mais surtout du soutien inconditionnel de Dieu. Ça rejoint ce que nous dit David dans Psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est mon berger. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, parce que le Seigneur me défend. Voilà ce qui me rassure. » Et on retrouve la même chose dans Psaume 84. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. » Et la pluie la couvre aussi de bénédictions, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Cette porte, elle nous rappelle les épreuves que nous sommes appelés à vivre tout au long de notre vie chrétienne et en même temps la promesse que Dieu nous fait d'être constamment à nos côtés, d'être ce soutien pour nous permettre de les traverser. Vous avez la porte du fumier. Alors c'est quoi la porte du fumier? C'est très simple, c'est une porte qui servait à évacuer les déchets, le fumier, en dehors des murs de la ville, pour être brûlé dans un lieu déterminé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles étaient situées à l'opposé de la porte des brebis. On est vraiment à l'extrême sud de la ville. Pourquoi cette porte est importante? On ne garde pas des déchets dans une ville. Si on garde des péchés dans une ville, ça finit par pourrir. Ensuite, ça exhale des mauvaises odeurs et ça finit par être vecteur de maladies. Eh bien, de la même façon, il n'est pas bon que nous gardions dans notre cœur des péchés, des œuvres de la chair qui corrompent le cœur, parce qu'il ne peut en être que des maladies, que la mort. Paul dira dans Philippiens, au chapitre 3, qu'il regarde toutes les choses auxquelles il était anciennement attaché, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, par lequel il a renoncé à tout, et il le regarde comme de la boue. Et dans une autre version, on nous dit qu'il le regarde comme des ordures, afin de gagner Christ. Regardons comme des ordures les choses dont nous enorgueillissons auparavant et abandonnons-nous complètement à la personne de Dieu. C'est cette invitation qu'on voit au travers de cette porte. Nous devons être conduits à renoncer au péché, à constamment nous repentir pour évacuer toute souillure de notre cœur, à ne pas garder, parce que sinon il en est l'amertume. Et l'amertume, on retourne sur cette eau amère de la ville de Jéricho. Il y a la porte de la fontaine ou de la source, c'est la porte d'entrée du Saint-Esprit et de son action. Ça renvoie à ce que Jésus affirmera dans Jean 6. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des flots d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jésus a été glorifié, on l'a fêté récemment. Jésus a été glorifié, le Saint-Esprit est descendu sur chacun des croyants et c'est cet appel à vivre la vie de l'Esprit, à vivre les flots continus de cette vie de l'Esprit au-dedans de nous, un appel à être dirigé par le Saint-Esprit qui se veut rafraîchissant et qui nous permet de manifester le fruit de l'Esprit qu'on retrouve dans Galates au chapitre 5. Et puis, vous avez la porte des eaux. La porte des eaux, ce n'est pas exactement comme la porte de la fontaine. La porte de la fontaine, c'est de l'eau en effusion. C'est de l'eau sous forme dynamique avec le Saint-Esprit. La porte des eaux représente davantage l'eau qui désaltère, l'eau qui renouvelle, l'eau qui purifie. Et c'est l'œuvre de la parole en nous. Vous avez la porte des chevaux. Alors la porte des chevaux, pour comprendre, il faut voir à quelle dimension nous donne la Bible du cheval. Le cheval est décrit dans des termes guerriers en général, dans des contextes de combat dans la Bible. Je vous ai mis notamment Job 39, où Dieu révèle des choses à Job au terme de son calvaire. Et il décrit le cheval comme cet être qui accompagne le soldat et qui va à la guerre d'un pas assuré. Et cette porte, finalement, elle nous rappelle qu'il y a parfois des combats que nous devons mener. Paul l'évoquera dans Éphésiens 6, au verset 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, On n'est pas appelé à barricader la ville, à être constamment en état de siège, à se faire harceler les murs. On est appelé parfois à sortir par la porte, à nous revêtir des armes que Dieu nous a laissées, les armes spirituelles qu'il nous a laissées, et être conscient que Jésus combat à nos côtés. Et voilà les armes qui nous ont été laissées, c'est la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, le zèle comme chaussure, la foi comme bouclier, le salut comme casque et l'esprit comme épée. Avant-dernière porte, la porte de l'Est, cette porte qui est tournée vers l'Orient. C'est loin d'être anecdotique puisque c'est là où le soleil se lève, c'est à l'Orient que le jardin d'Éden c'est à l'orient du jardin d'Éden que les chérubins ont été placés pour garder l'accès, pour empêcher l'accès au chemin de l'arbre de vie. C'est par la porte de l'Orient que la gloire de l'Éternel entre dans la maison, dans la révélation d'Ézéchiel. Et puis, elle est désignée dans 1 Chronique, au chapitre 9, comme la porte du roi. Cette porte, elle nous parle de la royauté, de la sainteté de Dieu, qui est appelée à venir régner sur nos vies. Mais elle nous parle aussi du retour de Jésus qui est appelé à prendre place sur le trône. Matthieu chapitre 25, verset 31, c'est ce que nous dit Jésus lui-même. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Cette porte, c'est donc celle de l'attente patiente de la réalisation de la promesse. Et puis, dernière porte, la porte de Mifkad, ou encore la porte de la surveillance, la porte de l'inspection. Derrière ce terme, il y a une notion militaire, il y a une notion de revue des troupes, une notion de dénombrement, une notion de correction, mais dans une démarche positive. Mifkad vient étymologiquement, si vous voulez, de pakad, qui signifie faire attention, rassembler, compter, visiter, punir, désigner, soigner, prendre soin d'eux. Si nous voulons compter parmi les vainqueurs du combat de la foi, comme Paul, aux côtés de Jésus, il nous faut nous discipliner, et accepter parfois une revue des troupes, accepter parfois d'être corrigé par Dieu, accepter que dans son amour, il souhaite en réalité nous reprendre pour nous permettre d'être transformés en l'image de Jésus. C'est ce que nous dit Hébreux au chapitre 12, au verset 10. « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. » Il y a donc une portée spirituelle pour chacune de ces 10 portes. Et ces 10 portes, on est appelé à les emprunter tout au long de notre cheminement chrétien. On est appelé à constamment en revenir à Jésus, qui est la porte des brebis, à la vérité et à la permanence de l'évangile, qui est la vieille porte, à la parole, qui est la porte des eaux, et au Saint-Esprit, qui est la porte de la fontaine, qui sont appelés à agir en nous. On est appelé à ouvrir la porte aux autres en leur partageant notre espérance, c'est la porte des poissons, à faire de la repentance notre priorité, à chaque fois que nous péchons pour ne pas entretenir de souillure dans notre cœur, c'est la porte du fumier. Nous sommes appelés à accepter que la vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, qu'elle sera parfois semée d'épreuves, c'est la porte de la vallée, ou encore de combats spirituels, c'est la porte des chevaux. Mais restons convaincus que Jésus nous accompagne et nous équipe. Quel que soit ce que nous vivons, nous sommes appelés à adhérer à la souveraineté de Dieu en l'appelant à diriger nos vies, c'est la porte de l'Orient, et nous sommes appelés à le laisser nous éduquer, à nous corriger pour que nous soyons transformés à l'image de Christ, c'est la porte de Mifkad. Ainsi, sur les ruines de Jéricho, cette ville de péché, d'enfermement et de mort, ne reconstruisons pas les mêmes murailles. Ne reconstruisons pas les mêmes murailles qui ont été maudites et qui seront de nouveau vouées à la destruction parce qu'elles ferment l'accès à la terre promise et à la présence de Dieu. Appelons le Seigneur à venir construire sur ces ruines une Jérusalem, une Jérusalem avec des murailles pour nous protéger des agressions extérieures, mais surtout avec de nombreuses portes, tout aussi nécessaires les unes que les autres. Il nous faut avoir des portes d'entrée nombreuses pour que Dieu ait accès à notre cœur, ait accès à notre vie, et puis puisse réaliser son œuvre. Et puis, il nous faut aussi rester ouverts aux autres, sans quoi on ne pourra pas en réalité manifester ce qu'il a réalisé dans nos vies, et nous ne pourrons pas faire ce que Dieu nous appelle, c'est-à-dire être dans une logique de compassion et manifester sa gloire auprès des autres. Nous sommes nécessairement, nous avons besoin en réalité de reconstruire nos murs avec de telles portes pour être ces bons samaritains qui s'arrêtent sur le chemin pour nous pencher vers ceux qui souffrent, des personnes aptes à comprendre parce que nous sommes aussi passés par là, parce que nous continuons, parfois de passer par là. Et ça doit nous appeler donc à l'humilité parce que nous sommes appelés à ne pas l'oublier. Appelons Dieu à faire de nous des villes saintes, des villes où il réside, parce que le temple s'y trouve et que l'accès à sa personne y est permanent. Amen.